Bonjour, au micro Idrissa Senoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Ici à Washington, adoptant une tonalité résolument optimiste à 6 mois de l'élection de novembre, le président Donald Trump a prédit hier un vaccin contre le coronavirus d'ici fin 2020 et une année 2021 incroyable, a-t-il dit, sur le plan économique. C'était lors d'un échange virtuel avec des Américains en direct sur Fox News et baptisé « L'Amérique ensemble, retourner au travail ». Assis à côté de l'imposante statue d'Abraham Lincoln au sein du mémorial dédié à l'ancien président, il a défendu avec force tous ses choix, refusant toute autocritique sur ce que ses détracteurs ont appelé ses atermoiements initiaux. « Je pense que nous avons sauvé des millions de vies », a-t-il souligné. Le directeur du laboratoire américain Gilead a affirmé que Washington ne bloquerait pas les exportations de l'antiviral expérimental Remdesivir, qui écourte de plusieurs jours, selon un grand essai clinique, le rétablissement des patients les plus gravement atteints, sans toutefois avoir d'effet sur la mortalité. L'administration Trump a de nouveau accusé la Chine de dissimulation dans la gestion de la pandémie. Il existe des preuves immenses que c'est là que c'est parti, a insisté le secrétaire d'État américain Mike Pompeo dans une allusion en laboratoire de virologie de la ville de Wuhan. Le président Trump s'en est pris souvent à la Chine depuis le début de la pandémie, qui a considérablement affaibli l'économie américaine. À noter que plus de 35 des 50 États américains ont commencé à lever ou sont sur le point de lever leurs mesures de confinement afin de relancer l'économie malgré des bilans quotidiens toujours lourds. On déplore dans ce pays plus de 67 000 décès pour plus de 1 158 000 cas. De premières mesures de confinement entrent également en vigueur lundi dans plusieurs pays européens. Les Italiens pourront rendre visite à leur famille ou se réunir en nombre limité. En Espagne, certains petits commerces, comme les coiffeurs, pourront recevoir des clients individuellement sur rendez-vous, ou encore en Allemagne, des écoles rouvriront progressivement dans certains États régionaux. En Algérie, de nombreux commerces, rouverts la semaine dernière, ont dû fermer à nouveau ce week-end dans plusieurs régions, dont Alger, à raison du non-respect des règles d'hygiène et de la distanciation sociale selon les autorités locales. Confrontés depuis le début du Ramadan à la non-application des mesures de prévention par des commerçants et des habitants, l'Algérie a recensé plus de 460 décès pour 4 474 cas. Des millions d'enfants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord risquent de ne pas être vaccinés contre la polio et la rougeole en raison de la pandémie qui a perturbé des campagnes de vaccination, a alerté l'UNICEF. La pandémie de COVID-19 a fait dans le monde plus de 246 000 morts pour plus de 3 500 000 cas, selon un bilan de l'AFP hier. Les États-Unis sont donc le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas. Suivent l'Italie avec 28 884 morts, le Royaume-Uni 28 446, l'Espagne 25 264 et la France 24 895. Politique intérieure américaine, la gouverneure démocrate du Michigan, Gretchen Whitmer, une colistière possible de Joe Biden, a déclaré hier croire le candidat à la Maison-Blanche quand il dément l'accusation d'agression sexuelle qui le vise. Les républicains dénoncent, eux, l'hypocrisie de son camp dans cette affaire. Tara Reid, 56 ans, accuse Joe Biden, 77 ans, de l'avoir agressé sexuellement dans un couloir du Congrès américain en 1993, lorsqu'il était sénateur et qu'elle travaillait pour lui. « Cela n'est jamais arrivé », a affirmé vendredi l'ancien vice-président américain, pour qui ces allégations ne sont pas vraies. VOA Afrique, Washington DC.
La suite de nos informations. Les professionnels du tourisme en Gambie ont lancé hier un appel à leur gouvernement et aux donateurs pour une aide d'urgence en raison de l'impact destructeur du Covid-19 sur leur activité. Une activité essentielle pour le pays, Yakuba Ouedraogo.
Avec l'apparition du nouveau coronavirus, les vols réguliers acheminant les touristes en Gambie ont été suspendus au pic de la saison. Les annulations laissent les hôtels avec des factures impayées par les opérateurs, souligne dans un communiqué l'Association nationale hôtelière et l'Association du tourisme et des voyages. Selon ces associations, les hôteliers tablent sur une perte d'environ 118 millions d'euros entre avril et juin. Elle s'alarme aussi du possible retrait de la Gambie de l'opérateur allemand FTI qui convoie en temps normal des centaines de voyageurs vers ce pays chaque semaine. Le secteur touristique emploie directement ou indirectement des dizaines de milliers de travailleurs dans un pays d'un peu plus de 2 millions de personnes. L'économie de la Gambie est tributaire du tourisme international, principale source de revenus, à côté de l'agriculture et de l'argent envoyé par les Gambiens vivant à l'extérieur. Fin 2019, le pays a encaissé la faillite du voyagiste britannique Thomas Cook, opérateur majeur localement. Ce coup dur est venu s'ajouter à la crise financière de 2008 et aux répercussions de la fièvre Ebola en Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016.
Le gouvernement algérien a décidé hier de réduire de moitié le budget de fonctionnement de l'État face à la grave crise financière qui menace le pays en raison de la chute des prix. Précision de John Linden.
Selon un communiqué de la présidence, il a été décidé de réduire de 50% le budget de fonctionnement de l'État et des institutions y afférentes. Le gouvernement s'est par ailleurs engagé lors d'un conseil des ministres tenu sous la présidence du président Abdelmadjid Tebboune à augmenter le revenu minimum à partir du 1er juin de plus de 11%. Le salaire minimum, qui était de 18 000 dinars, soit 128 euros, passe à 20 000 dinars, environ 142 euros. En outre, l'impôt sur le revenu est supprimé pour ceux qui perçoivent un salaire équivalent ou inférieur à 30 000 dinars ou 213 euros. En revanche, le gouvernement a renvoyé au 10 mai la présentation de sa loi des finances complémentaires qui doit lui permettre de répondre aux risques de crise socio-économique dans les prochains mois sur fond de propagation de la pandémie de COVID-19. Au moins 4 474 cas ont officiellement été déclarés dans le pays pour 453 morts. En fin de semaine dernière, le président Abdelmadjid Tebboune avait exclu, au nom de la souveraineté nationale, de contracter des prêts auprès du Fonds monétaire international et des organismes financiers internationaux. Selon des prévisions du FMI, l'Algérie devrait connaître une récession de moins 5,2% en 2020, ainsi qu'un déficit budgétaire parmi les plus élevés de la région en raison de la chute des cours du pétrole et bien sûr du nouveau coronavirus.
Le débat sur un arrêt de la participation de l'Allemagne à la force de dissuasion nucléaire américaine en Europe a été relancé dimanche et crée des remous au sein du gouvernement d'Angela Merkel. Bagassi Koura.
C'est l'un des deux présidents du Parti social-démocrate SPD, partenaire de la coalition aux côtés des conservateurs de la chancelière qui a jeté le pavé dans la mare. Je défends une position claire contre le stationnement, la mise à disposition et bien sûr l'utilisation d'armes nucléaires, déclare Norbert Walter Borjans dans l'édition dominicale du quotidien Frankfurt Allgemeine Zeitung. Un autre responsable social-démocrate, Ralf Mützenich, président du groupe parlementaire, juge que les armes nucléaires sur le sol allemand ne renforcent pas notre sécurité, bien au contraire. Il est temps que l'Allemagne exclue à l'avenir leur stationnement, a-t-il ajouté dimanche dans le journal Tagesspiegel. Suite à une série de désastres électoraux, le Parti social-démocrate a opté l'an dernier pour un visage à gauche de son programme et a élu une direction du mouvement en ce sens, incarnée notamment par ces deux hommes. Leur offensive se focalise sur le projet de renouvellement de la flotte allemande d'avions de chasse, composée aujourd'hui de Tornado, bientôt obsolète, et qui ont notamment pour mission de transporter des bombes nucléaires américaines dans le cadre de la force de dissuasion de l'OTAN en Europe.
La Minute Éco, Nanit Talani.
L'île Maurice autorise une reprise graduelle de certaines activités comme les boulangeries, boucheries et poissonneries à partir du 15 mai. Elles viendront s'ajouter aux secteurs essentiels comme les banques et les supermarchés qui fonctionnent toujours en dépit du confinement. En revanche, les marchés, bars et centres commerciaux resteront fermés jusqu'au 1er juin, tandis que les écoles ne rouvriront que le 1er août. En RDC, les chefs des confessions religieuses refusent de gérer l'argent public du Fonds national de solidarité contre le COVID-19. Les modalités de leur participation s'avèrent incompatibles avec leur statut de chef spirituel. Ils proposent de modifier l'ordonnance présidentielle pour leur permettre d'animer un conseil consultatif qui fera régulièrement le suivi de la gestion du fonds et donnera ses avis au président de la République. Ce fonds doit être financé par l'État, les entreprises publiques ou privées et les bailleurs de fonds. Pour terminer, l'Algérie refuse de contracter des prêts auprès du FMI et des organismes internationaux en dépit de la crise financière. Le gouvernement préfère emprunter l'argent auprès des citoyens à cause de la mauvaise expérience du pays lors du recours à l'endettement auprès du FMI dans les années 90. L'argent du circuit informel représente entre 43 milliards et 71 milliards d'euros. Les propriétaires des fonds auront toutes les garanties et les facilitations nécessaires.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Selon un rapport de l'OMS fourni à la Confédération africaine de football, le nombre de cas confirmés de COVID-19 en Afrique est de 38 455.
Oui, et à la date du 1er mai, le pays comptant le plus grand nombre de cette maladie est l'Afrique du Sud, avec 5 647 cas confirmés, dont 113 décès, le plus bas étant les Comores avec un cas confirmé pour 0 décès. Au total, 1635 cas de décès déclarés sur le continent. À noter que le Lesotho n'a aucun cas confirmé jusqu'à ce jour. D'après ce rapport, la CAF envisage de faire une étude pour savoir quelles sont les stratégies à mettre en place pour faire la programmation des rencontres qualificatives pour la CAN 2021 et également l'organisation des demi-finales des compétitions des clubs.
Après l'ultimatum de la CAF, la Fédération royale marocaine de football se penchera dans les jours à venir sur le sort de ces compétitions stoppées à cause de la propagation du COVID-19.
Oui, de sources bien informées, le comité directeur de la fédération présidé par Fawzi Legga tiendra cette semaine une réunion en visioconférence pour analyser la situation causée par la pandémie de coronavirus et étudier une éventuelle feuille de route pour décider de l'avenir de la Botola, entendez la première ligue marocaine. L'objectif est d'essayer de terminer les championnats de première et deuxième division arrêtés le 14 mars dernier dès la fin du confinement. Précisons que la CAF a demandé à chaque fédération de lui communiquer avant le 5 mai les scénarios de reprise ou non de son championnat.
En Tunisie, le championnat devrait reprendre aussi en juin.
Selon Mosaïque FM, la Fédération tunisienne de football a élaboré un projet pour la reprise de la Ligue 1. Les clubs reprendraient les entraînements entre le 11 et le 18 mai et la compétition se déroulerait entre le 10 juin et le 10 août. Toutes les rencontres auraient lieu à huis clos dans les stades de la capitale. La fédération propose donc que tous les clubs soient rassemblés à Tunis.
Si cela ne tenait qu'aux croissants sportifs chez bien, cette Ligue 1 tunisienne ne reprendrait pas.
Exactement, Idrissa. Le club promu s'oppose catégoriquement à la reprise de la compétition. Dans un communiqué, il a recommandé à la fédération de suspendre définitivement le championnat. Pour le CS Sheba, la santé devrait primer surtout. L'actuel 9e de la Ligue 1 appelle donc la fédération à suspendre toutes ses activités.
En revanche, le Kenya et l'Angola ont arrêté leur championnat.
Après la Guinée, l'Angola et le Kenya ont annoncé que leur championnat ne reprendrait pas. La Confédération africaine de football a donné jusqu'au 5 mai aux différentes fédérations pour décider de la reprise ou de l'arrêt de leur compétition pour cause de la pandémie de coronavirus. En Angola, le Petro Atlético et le 1er de Agosto seront en Ligue des champions la saison prochaine et le Gor Mahia déclaré champion pour la 4e fois consécutive au Kenya.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 474 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 474 de Canal+.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seloulia. Nous passons maintenant à nos magazines du jour. L'érosion de la liberté de la presse se poursuit et affecte dangereusement l'exercice du journalisme au Gabon. Le pays occupe le 121e rang mondial du classement 2020 de Reporters sans frontières. Dans ce pays, les suspensions des journaux par l'organe de régulation des médias sont fréquentes. La crise sanitaire du Covid-19 complique davantage la tâche des médias contraints à attendre des informations officielles dans leur rédaction. Reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Une ambiance de conférence de rédaction pour donner le ton d'une journée de travail d'équipe à Radio Gabon. La radio nationale a dû s'adapter au contexte de la crise sanitaire pour redéployer les équipes avec un résultat dont se satisfait le chef des services des actualités parlées, Nick Jocelyn Fouba.
La méthode de travail a complètement changé, mais je vous dis encore qu'elle a même évolué. Nous font des papiers d'analyse, on a également au niveau de la banque alimentaire, donc au niveau du ministère des Solidarités, on a également un journaliste là-bas qui fait également son job de journaliste, de vue entendue.
Cependant, les réalités du métier semblent varier d'un média à l'autre. À l'opposé des organes publics, ceux dits privés se plaignent du difficile accès aux sources d'informations officielles, surtout en ces temps de Covid-19. Benjamin Toumezu, fondateur du site Équateur.com.
Quand les populations du deuxième arrondissement viennent vers moi, disent c'est vous, monsieur le journaliste, qui avez accès à l'information, essayez pour nous donner les détails. Alors, j'ai quel baromètre pour leur donner? Donc, je me retrouve en difficulté. Je deviens comme un journaliste béni, oui, qui on demande seulement que va faire ceci ou cela. Or, j'ai le plein droit d'analyser, recouper mes informations avant d'envoyer ça à qui de droit.
La liberté des journalistes est donc relative au Gabon. Esmine Kayumba, officier à la télévision nationale.
Cette période de Covid-19, liberté de la presse, je ne pense pas que ça soit cela parce que libre peut-être d'aller sur le terrain, mais dans la conscience, on n'est pas libre. Parce que vous savez, pour rendre l'information telle qu'elle est, il faut déjà être libre au-dedans de soi. Donc en cette période très sensible, ce n'est pas facile.
Pour Marcel Chibinda, journaliste, la pratique du métier sans contrainte ni complaisance doit intégrer la notion de responsabilité.
Le journaliste doit avoir la pleine mesure des conséquences que pourrait avoir ce qu'il va dire ou l'information qu'il va traiter. Et à mon sens, c'est peut-être ce qui pourrait amener le journaliste à être complaisant. Mais sinon, normalement, en toute âme et conscience, un journaliste doit pouvoir traiter l'information objectivement. Lorsque j'entends l'objectivité, ce que j'entends par objectivité, c'est éviter tout extrémisme, toute passion en fait.
Libreville, Ismaël Obiangze, VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Liberté de la presse toujours au Togo dans un contexte de précarité des journalistes. Ils sont nombreux dans le pays à ne même pas percevoir le salaire minimum garanti qui est de 35 000 francs CFA. Au même moment, les patrons de presse disent subir une pression économique liberticide qui ne dit pas son nom. La liberté de presse et indépendance financière, un reportage de notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
La presse ne nourrit pas son homme au Togo.
Les conducteurs de taxi moto sont mieux lotis aujourd'hui que les journalistes.
Au Togo, dans la presse privée, c'est rare de trouver un journaliste payé à 100 000 francs CFA le mois, soit près de 165 dollars. Là encore, c'est dans la catégorie des rédacteurs en chef sur une station radio ou sur une chaîne de télévision. Dans la presse écrite, ces hommes dits du quatrième pouvoir ne reçoivent qu'une prime de bouclage qui est de 5 000 francs CFA par parution pour les plus chanceux. Dans la majorité des cas, ils se contentent de quelques émoluments qu'ils perçoivent comme prime de déplacement sur les lieux de reportage. Les journalistes tirent le diable par la queue au Togo. C'est l'une des corporations les plus précaires du pays, ce qui constituerait une menace pour la liberté de presse, estime Isidore Kouonou, secrétaire général du syndicat national des journalistes indépendants du Togo, Syngit.
difficilement, les journalistes ont un salaire, ne sont pas déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous sommes dans une corporation où les journalistes n'ont pas d'assurance. Les journalistes vivent au jour le jour. Donc tout cela constitue une prédation pour la liberté de la presse. Un journaliste qui n'est pas payé, qui ne vit pas bien, ne peut pas faire honnêtement, librement son travail. Il attendra quelqu'un qui lui donnera quelque chose. Et cela rejaillit sur le travail que le journaliste fait.
Une convention collective sectorielle pourrait résoudre le problème de ce qui est qualifié sur le terrain de mendicité des journalistes togolais. Mais ce n'est pas le cas, regrette amèrement le journaliste Albert Agbeko.
L'absence de la convention collective fait que le journaliste a recours au chantage, à des manipulations pour survivre. Cette absence fait également le lien au phénomène du G20 qui consiste pour le journaliste à sillonner des lieux de reportage pour des espèces sonnantes et trébuchantes. Je pense que seule une convention collective peut assainir le paysage médiatique togolais et rendre la presse plus professionnelle.
La liberté de presse est aussi une liberté économique des organes de presse. Ferdinand Haïté, directeur de publication du bi-hebdomadaire Alternative, indique que l'une des entraves auxquelles il fait face est la tentative d'asphyxie financière. Il témoigne au micro de VOA Afrique.
Il y a des sociétés publiques ou parapubliques qui font des publicités. Et à chaque fois que nous nous présentons, on dit bah, « écoutez, votre journal n'est pas sur la liste ». Lorsqu'on a cherché à comprendre, il s'est avéré que c'est parce que nous sommes trop critiques. Donc nous critiquons trop le pouvoir. Une société parapublique ou publique ne peut pas nous donner de la publicité. Il en est de même pour certains privés qui ont peur de faire passer la publicité dans des journaux trop critiques parce qu'ils risquent de se retrouver dans le viseur du fisc ou des contrôleurs publics.
Selon le classement 2020 de Reporters sans frontières RSF sur la liberté de presse dans le monde, le Togo se niche à la 71e place. Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest a gagné 5 places par rapport à 2019. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Le Nigeria, qui comptait ce week-end 85 décès et 2388 cas confirmés liés au Covid-19, va procéder à un déconfinement progressif à partir de ce lundi. Le président Muhammadu Buhari a annoncé plusieurs mesures pour ce déconfinement graduel, notamment un couvre-feu nocturne et le port du masque obligatoire dans les lieux publics. Reportage de Gilbert Tamba.
Dans la soirée du 27 avril, le président nigérien Muhammadu Buhari a annoncé un assouplissement progressif du confinement à Lagos, Ogun et Abuja, la capitale fédérale. Plus de 25 millions d'habitants dans ces trois principaux États ont été les premiers à être soumis aux restrictions de mouvement pour empêcher la propagation du Covid-19. Ce retour graduel à la vie normale est toutefois un fait que beaucoup n'osent envisager pour le moment, craignant une hausse importante des cas de contamination. Fifo Nwadiji est activiste nigériane. La situation est encore alarmante et c'est inquiétant pour moi. Dans d'autres circonstances où il y a du confinement, ils ne peuvent décider d'assouplir le confinement que lorsqu'ils maîtrisent la situation et vous verrez le nombre de cas qui diminue. Mais dans notre cas, nous envisageons le déconfinement progressif alors que nos chiffres augmentent. Donc tout le monde doit être préoccupé de la santé des Nigériens. Le confinement de 5 semaines au Nigeria était une mesure importante recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour freiner la propagation de la maladie. Depuis le début du confinement, les cas positifs du Covid-19 ont augmenté en flèche dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Dr Sani Aliou, le coordinateur de la commission sur le Covid-19. Nous essayons juste de changer des premières mesures d'intervention par d'autres, parce que nous sommes encore loin de contrôler cette épidémie. Nous devons continuer à travailler fort, nous tous, pour résoudre la crise. Donc, il y a une imposition de couvre-feu nocturne dans tout le pays de 20h à 6h le matin. Pour les déplacements, les gens pourront aller au travail, sortir pour acheter de la nourriture et pour des exercices. Mais nous demandons aux gens de limiter leurs déplacements strictement dans leur communauté. Le déconfinement progressif soulagera les populations du Nigeria où l'immense majorité de la population dépend de l'économie informelle pour sa survie. Plusieurs autres mesures sont prises par les autorités fédérales, notamment les frontières inter-États resteront fermées, sauf pour les besoins essentiels comme le transport des denrées alimentaires ou encore des produits pétroliers, ainsi que les mesures de distanciation sociale. Le ministre de la Santé, Osagie Ohanire, invite les Nigériens à renforcer leurs systèmes immunitaires contre le COVID-19. Pour renforcer votre système immunitaire, il y a beaucoup de remèdes. Certains sont bien connus. Vous avez entendu parler des vitamines comme la vitamine C. Il faut aussi consommer des fruits, des feuilles. Il y a donc beaucoup de choses pour renforcer le système immunitaire et que je vous demande tous de faire. Le nombre de tests est particulièrement insignifiant jusqu'ici et de nombreux États peuplés de plusieurs millions d'habitants ne disposent pas de laboratoires de dépistage. Pour tenter de limiter la propagation du COVID-19, le Centre national de contrôle des maladies propose de tester quelques 2 millions de personnes dans les 3 prochains mois. Plus de 12 millions de personnes ayant des contacts avec des cas déjà testés positifs sont présentement recherchées à travers le pays. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Avec plus de 6000 cas confirmés, l'Afrique du Sud est officiellement le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par le COVID-19. Le pays est toujours en confinement, bien que depuis le 1er mai, certains secteurs de l'économie ont pu reprendre leur activité, toujours avec des règles très strictes. Reportage de Patricia Hur.
Des centaines de joggeurs, de cyclistes et de promeneurs se sont précipités dans les rues des villes sud-africaines. Il est désormais permis de faire de l'exercice entre 6h et 9h du matin.
Aujourd'hui, on a sorti les chiens pour la première fois et on a acheté du pain et un croissant pour mon fils. Un peu plus tôt, je suis allé courir. C'est mieux que de rester enfermé à la maison.
Mais c'est surtout pour tenter de préserver l'économie que les mesures de confinement ont été un peu assouplies. Certains secteurs d'activité ont pu reprendre, certains magasins ont pu rouvrir leurs portes, toujours avec une liste réduite de produits autorisés à la vente. Des mesures nécessaires pour éviter un effondrement total, mais l'impact du confinement sera malgré tout très lourd, dit l'économiste Azar Jamin.
La dette publique augmente et notre notation de crédit a été dégradée. Le problème, c'est que le gouvernement ne peut pas se permettre d'emprunter encore plus et de creuser le déficit pour tenter de sauver l'économie.
Ce week-end, dans le centre commercial Maponia à Soweto, c'était l'affluence. De longues queues s'étaient formées, notamment devant les boutiques de prêt-à-porter, alors que l'hiver approche et que les températures baissent.
Je vais acheter des vêtements chauds, des vestes et des chaussures pour moi et mes enfants qui sont à la maison. C'est difficile, ils ne veulent même plus jouer à la maison, ils veulent sortir, mais nous ne pouvons rien y faire. On doit coopérer avec ces règles que le gouvernement nous a données.
Les restaurants fermés depuis 5 semaines sont désormais autorisés à faire des livraisons de repas à domicile. Mais dans ces conditions, seule une partie des employés sont de retour au travail, explique le manager de cet établissement spécialisé dans la viande grillée qui faisait sale comble tous les midis.
Hier, nous avons eu une quarantaine de commandes et aujourd'hui, nous en sommes à 60. Normalement, nous avons 25 employés, mais là, il y a seulement 8 personnes en ce moment. La situation nuit à notre business. Financièrement, c'est très difficile. Et selon les médias, tous les jours, il y a de nouvelles personnes infectées. Donc je pense que cela va prendre du temps.
Les conséquences à long terme sur une économie déjà fragile sont encore difficiles à estimer, mais les autorités maintiennent que ces mesures strictes étaient nécessaires et ont permis de repousser le pic de l'épidémie. Patricia Huon, Johannesburg pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sédouga et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.